avons le plaisir de vous retrouver, Hervé Gardet, pour Du Grain à Moudre, à 18h20 sur France Culture.
Eh bien, le plaisir est partagé. Enfin, est-ce qu'on le dit quand on se retrouve soi-même? Je ne suis pas sûr. On vous retrouve, vous, Aurélie Kiefer, à 19h, pour le rappel des titres. D'ici là, donc, c'est Du Grain à Moudre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On ne pouvait pas faire moins pour la première grande réforme du quinquennat que de lui consacrer deux émissions à la suite. Il faut dire que la loi travail, celle à laquelle Muriel Pénicaud semble avoir échoué à donner son nom, contrairement à Myriam El Khomri, cette loi travail est un sujet à ouverture multiple. La façon dont la réforme a été conduite aura permis d'apprécier la méthode d'Emmanuel Macron à l'égard des partenaires sociaux. Elle servira de point de comparaison pour les prochaines, celle de l'assurance chômage, de la formation ou encore des retraites. Et puis il y a bien sûr le contenu des cinq ordonnances qui modifie le code du travail sur deux points essentiels, les procédures de licenciement et les indemnités qui leur sont liées, et le dialogue social avec la fusion des instances du personnel, le recours élargi au référendum d'entreprise, ou encore la fameuse hiérarchie des normes dont l'inversion partielle donne à ces mêmes entreprises de nouvelles prérogatives au détriment des branches. La semaine dernière, les députés ont débattu pour une des toutes dernières fois du contenu des ordonnances. Un vote solennel est prévu demain à l'Assemblée en vue de la ratification du texte, ce qui lui donnera force de loi. Alors, loi travail, est-ce que cette fois, c'est vraiment la bonne? Et est-ce que c'est d'ailleurs peut-être la dernière fois que nous en parlons ce soir dans Du Grain à Moudre? Ça va peut-être dépendre des invités qui sont quatre ce soir. Leïla de Commarmont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste aux Échos, vous êtes spécialiste des questions sociales. Pour discuter avec vous, Mathilde Goanec, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Mediapart, en charge des questions sociales. Je veux dire en charge un coup, spécialiste des questions sociales, c'est juste pour alterner, voilà, pour varier un petit peu les présentations. Troisième invité, Manon Malher, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service économie du Figaro. Vous avez suivi toute l'élaboration de cette loi Pénicaud qui a bien du mal à porter le nom de la ministre du Travail. Et puis quatrième invité, Jean-Christophe Chanu, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des questions sociales. Vous êtes passé par un certain nombre de médias, parmi lesquels l'incontournable Liaison Sociale, je le dis, parce que c'est presque la maison mère d'un grand nombre de journalistes spécialisés dans ces questions. Alors si je disais qu'on faisait deux émissions à la suite, c'est parce que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent le vendredi savent que vendredi dernier, dans le cadre du Club des Idées, on s'est aussi attaché à cette question. L'idée, c'était beaucoup d'aller sur la méthode politique qui avait été celle à la fois de la majorité et de l'opposition. Puis nos camarades du club sont aussi allés sur le contenu. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait aussi mélanger un petit peu le style et le fond et la forme. La forme, c'est donc demain ce vote solennel à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est, si ce n'est la dernière étape, en tout cas une des toutes dernières étapes pour ces ordonnances, Leïla de Commarmont?
Une des toutes dernières, sachant quand même que ces ordonnances sont déjà entrées en vigueur, puisqu'elles sont entrées en vigueur le 24 septembre, que des décrets ont déjà commencé à être publiés et que les modifications lors de ce débat parlementaire de ratification sont à la marge. On n'a pas de révolution de la révolution.
C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi ça dure aussi longtemps, parce que la signature des ordonnances par Emmanuel Macron, elle a été faite de manière extrêmement solennelle, ça s'est fait en direct à la télévision. Est-ce que c'était peut-être aussi une façon, Mathilde Goanec, de clore le débat, de dire bon bah certes il y a quand même encore un processus législatif, mais l'essentiel est fait et l'essentiel est fait depuis deux mois?
Oui, parce qu'en plus le mouvement social qui avait quand même du mal à se mettre en place a été du coup quasiment stoppé en fait par la présentation des ordonnances comme étant un sujet plié, alors qu'en fait effectivement il y avait encore la ratification. Bon, en fait effectivement, comme l'a dit Leïla, c'est un peu anecdotique puisqu'il n'y a quasiment aucun amendement révolutionnaire qui a été adopté. Donc de fait, c'était déjà plié il y a deux mois. Oui,
oui, parce qu'il faut quand même préciser que la semaine dernière, il y a eu plusieurs jours de débat à l'Assemblée nationale, Manon Malher. Est-ce que, alors sans qu'il y ait des amendements révolutionnaires, est-ce qu'il y a des modifications qui sont quand même intéressantes, en tout cas suffisamment remarquables pour les noter et qui sont liées justement à ce travail des députés?
Oui, en fait, oui, il y a rien de révolutionnaire. Il y a des un peu à droite et à gauche, notamment, ils veulent sécuriser, enfin, sur le licenciement économique au niveau français, pas au niveau international. Enfin, le périmètre d'appréciation du licenciement économique au niveau français, ils veulent sécuriser un peu plus en indiquant clairement que, je crois que c'est ça, hein, en indiquant clairement que la fraude, s'il y a une fraude de la part de l'entreprise, de la multinationale, ben, il n'y aura pas de licenciement économique possible.
Voilà, parce qu'il y a la possibilité pour les filiales françaises, c'est-à-dire de licencier, même si la santé de la maison mère, de la multinationale, est correcte, mais en faisant en sorte que ça ne soit pas, comment dire, des difficultés qui soient orchestrées par cette filiale et qu'on puisse s'assurer qu'il y a de vraies difficultés économiques. Voilà. Donc là, c'était un petit, voilà, une petite modification, une clarification.
Voilà, les ordonnances ont été rédigées quand même très rapidement. D'ailleurs, il y a des ordonnances coquilles qui vont tomber. Il y en a une en cours. Il y en a une autre qui va arriver. Donc pour gommer les incohérences et pour clarifier certains points et sécuriser. Il y a un autre point sur le conseil. Je rentre dans les détails là sur le conseil d'entreprise. Bon, en gros, c'est pour donner une plus grande capacité de négociation. Pour les syndicats et les chefs d'entreprise sur certains points, enfin pour élargir les sujets qui pourront être négociés.
En tout cas, pour clore ce premier tour de table, Jean-Christophe Chanu, on peut dire que ce sont vraiment des modifications à la marge, que l'essentiel était fait, et l'essentiel était d'autant plus fait que ces ordonnances ont commencé à entrer en vigueur, même si elles n'ont pas tout à fait la même force qu'elles auront une fois que la loi aura été ratifiée.
La philosophie ne change absolument pas, bien entendu. Ce que voulait Emmanuel Macron pendant la campagne électorale demeure, tout est là. Il y a quelques petites modifications à la marge, ça a été dit par mes consoeurs, mais sur le fond, il n'y a absolument rien de changé. Pour parler de la méthode, parce que vous avez évoqué cette question au tout début, oui, en effet, c'est vrai que ça change de la loi El Khomri, ça c'est sûr.
Alors, si c'est qu'est-ce qui change ?
Alors, au fait, ce qui change, c'est que tout a été dit pendant la campagne électorale. Au moins, on peut reconnaître ça à Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu sur un programme qu'il a annoncé. La loi El Khomri de 2016, elle est venue comme un cheveu sur la soupe. En 2012, vous ne trouverez pas un mot dans le programme de François Hollande qui annonçait une réforme profonde du droit du travail. Et c'est ce qui lui a valu quelques déboires, du coup, en 2016. Et le mal de chien à faire passer la loi dite El Khomri, alors qu'en vérité, ce n'est pas tellement Madame El Khomri qui a porté cette loi. C'est donc la grande différence déjà avec Emmanuel Macron. Et puis, quand vous parlez des délais, au fait, les délais, ils sont constitutionnels parce que les ordonnances, il y a tout un cheminement. Et il faut respecter la Constitution avec la loi de ratification, etc. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu long et qu'on a l'impression que finalement, en fait, tout est déjà passé. Mais la loi de ratification est obligatoire.
Et est-ce que la concertation avec les partenaires sociaux faisait partie, justement, de ces règles à suivre, Mathilde Goanec ? Et est-ce que, d'ailleurs, on peut dire que ça le différencie, peut-être, cette loi de ce qu'a été la méthode El Khomri ?
Il y avait une obligation, enfin, il n'y avait pas l'obligation de négociation, en fait, hein, pour réformer le droit du travail, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur la formation professionnelle. C'est pour ça qu'un nouveau cycle de négociation s'engage. Sur la formation professionnelle, mais donc il n'y avait pas d'obligation de négociation et de fait le gouvernement a saisi cette opportunité pour concerter très largement en bilatéral et avec les organisations syndicales et patronales, mais a fait de fait un peu les choses dans son coin.
Là où alors moi j'avais lu que la loi Larcher obligeait justement à passer par de la négociation, c'est pas le cas.
C'est de la concertation, c'est pas de la négociation.
Ah oui, alors c'est quoi la différence entre concertation et négociation?
En fait, si on regarde la loi Larcher, elle dit qu'il y a obligation.
Date de 2007, hein, c'est ça ?
Oui. Elle dit quoi ? Elle dit quand vous abordez ce type de sujet, vous avez l'obligation de saisir les partenaires sociaux et de leur dire est-ce que vous voulez négocier ? Mais là, personne n'avait surtout envie d'ouvrir ce sujet. Donc la réalité, c'est que, à défaut d'être respecté dans la forme avec une interpellation officielle, ça a été respecté dans les faits puisque ni patronat ni syndicat n'avaient aucune envie de négocier sur ce sujet sur lequel il pensait, et on peut dire que c'est à raison, qu'il ne réussirait pas à trouver d'accord. Donc, qu'a fait Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, au départ, il parlait pas de concertation, mais il est assez habile pour avoir réalisé que pour valider sa loi, lui donner une vraie valeur et la consolider, il fallait qu'il en passe par là. Et habilement, ce qu'il a fait, c'est il a pas fait de Grenelle du droit du travail. Il les a vus un à un. Et paradoxalement, la nouveauté de la méthode est très ancienne, puisqu'en fait, il a fait des deals avec les uns, avec les autres.
On peut notamment pas dire... avec Force Ouvrière, qui est revenue, disons, dans, dans le champ de la gouvernementale, disons, enfin, je sais pas comment il faut le dire, mais qui était plutôt dans l'opposition, ce qui a peut-être aussi contribué à fragiliser la position de la CFDT. C'est quoi, il a divisé ou il a essayé d'être équitable avec tout le monde pour vous, Manon Malher?
Mais je pense qu'il a quand même joué sur la division. Le Front syndical n'est toujours pas uni, mais ce que je voudrais revenir sur cette concertation qui a été quand même, il faut le rappeler, assez inédite. Il a été très habile et c'est une concertation inédite, sachant que je pense de juin à... Puis il y a eu des négociations un peu informelles en août. Il y a eu 300 heures. Ils ont été là-bas au ministère du Travail pendant 300 heures. Il y a des réunions bilatérales. Et il y a eu une évolution dans ce qu'ils voulaient. Ils ont donné plus de pouvoir aux branches alors qu'à la base, c'était pas vraiment le projet. Donc ça permettait un peu de calmer, si je peux dire, FO. Enfin, c'est un peu du donnant-donnant. Et au final... Oui, ça a été un bon compromis.
Je vais citer une de vos consœurs, vous allez me dire tous les quatre si vous êtes d'accord avec ça. C'est Fanny Guinochet dans L'Opinion qui écrivait début septembre, vous la connaissez forcément. « Tous les partenaires sociaux, même les plus opposés à la réforme, ont été soignés. Le gouvernement a veillé à ne pas privilégier l'un plutôt que l'autre. » Jean-Christophe Chanier, vous êtes d'accord?
Je suis globalement d'accord avec cette phrase de Fanny Guinochet. Parce que... Il faut se remettre là aussi dans un contexte historique. C'est sûr que par rapport à encore l'année dernière, il n'y avait qu'un seul interlocuteur face au gouvernement, c'était la CFDT. Alors c'est sûr que cette fois, bah, tout à coup, on a redécouvert qu'il y avait d'autres syndicats en France. Alors c'est sûr que tout le monde a été un peu servi. C'est sans doute Force Ouvrière qui a quand même été le mieux servi. Voilà, donc au fait, on est passé d'un monopole de la CFDT sous un gouvernement social-démocrate, là, un certain pluralisme syndical.
Alors,
moi, je dirais soigner, oui, mais pas forcément à la fin. C'est-à-dire que on peut se demander si Emmanuel Macron a vraiment cherché l'assentiment de syndicats sur sa réforme. Il a cherché à éviter une unité syndicale. Mmh. Il a cherché à montrer qu'il était prêt à écouter tout le monde. Il a donné des gages sur certains points. Mais tout de même, quand on regarde le résultat, et quand on regarde le silence de Pierre Gattaz pendant toute cette période, qui est quand même un exploit parce qu'il nous avait plutôt habitués à faire beaucoup de gaffes et des propos assez violents et maladroits, on peut dire, hein, la réalité, c'est qu'au final, on a une réforme qui est approuvée par le patronat et qui n'est pas approuvée par les syndicats. Sur, par exemple, le conseil d'entreprise dont parlait Manon, il y a un amendement qui élargit ce qui pourrait être le prémisse d'une co-gestion à la française des entreprises. Mais malgré tout, c'est quelque chose d'extrêmement timide, alors que c'est un élément fondamental pour la CFDT. Sur le pouvoir des branches, c'est vrai que FO a gagné des choses, mais la réalité de cette loi, c'est que le code du travail, la loi du travail... Eh bien, elle est extrêmement affaiblie. C'est la négociation de branches ou d'entreprises qui prend le pouvoir sur un certain nombre de sujets.
Donc vous dites pas de, enfin vous le dites pas, mais c'est moi qui vais le dire, pas de mouvement social d'ampleur en tout cas suffisant pour faire varier la ligne du gouvernement. Mais donc vous disiez Leïla de Commermont, un projet qui au final est approuvé par le patronat et qui ne l'est pas par les syndicats. C'est aussi votre analyse, Mathilde Gouanec?
Oui, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que c'est un bon compromis. Je pense qu'unanimement, les organisations syndicales considèrent qu'elles n'ont pas gagné. Je veux dire, même la CFDT et FO disent qu'elles ont perdu, notamment sur la place des syndicats dans l'entreprise. Donc, les syndicats sont affaiblis, les instances, une partie des instances disparaît. Sur les licenciements, elles ont beaucoup perdu. Enfin, sur même leur capacité d'action, elles ont toutes beaucoup perdu. Et Laurent Berger, comme Jean-Claude Mailly, même s'ils ne sont pas allés dans la rue avec la CGT, on n'a pas parlé de la CGT, mais je pense qu'elle est totalement perdue dans le débat. En tout cas, aucune ne s'estime ravie, aucune ne s'estime même un peu soignée. Enfin, elles ont toutes perdu.
Madame Malher,
je pense qu'il a limité la... Enfin, il a réussi à garder à bord. La CFDT n'est pas dans la... Bon, c'est pas l'habitude de la CFDT d'aller dans la rue. FO a eu un rôle très pivot dans cette... concertation. N'est pas Jean-Claude Mailly n'a pas appelé à aller dans la rue. Je pense qu'il a quand même.
Qu'ils ont participé à la dernière manifestation. C'était un peu ambigu. On savait pas très bien de quel côté ils étaient au bout du compte. Hein. À Force Ouvrière.
Oui, parce qu'en fait là-bas ça monte pas mal, mais je veux dire ils ont pas appelé au retrait des ordonnances. Je pense qu'il y a eu un respect mutuel pour moi, c'est pas rien d'avoir quand même renforcé le pouvoir des branches. Enfin...
Alors, on va aller sur le contenu hein, dans un instant. Juste une dernière réaction sur la méthode, Jean-Christophe Chanu.
Non, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à mes consoeurs. quand même, par rapport à ce que disait Mediapart, oui, bien entendu,
aucun syndicat... En l'occurrence, Mathilde Gouanec.
Oui, aucun syndicat... Excusez-moi. Aucun syndicat n'est ravi, bien entendu. C'est absolument pas ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Aucun syndicat n'est ravi. Simplement, Emmanuel Macron, en effet, a été malin et a lâché quelques petites concessions aux uns et aux autres sur l'indemnité légale de licenciement, enfin, des petites choses comme ça. Mais bien entendu que les syndicats ne sont pas ravis. Mais je pense qu'on va parler du fond et on va pouvoir montrer pourquoi les syndicats ne sont pas ravis.
Alors justement, parlons-en du fond. Quel est pour vous le principal changement qui est induit par cette loi travail Pénicaud par rapport notamment à la précédente loi, à savoir la loi El Khomri, Mathilde Gouanec?
Alors, je le disais tout à l'heure, je pense que sur la place des syndicats dans l'entreprise, c'est assez important ce qui se passe, c'est-à-dire notamment sur la possibilité de négocier avec, directement avec des élus et non plus avec des élus syndiqués mandatés. Il y a la question du référendum, hein, un employeur pourra passer par-dessus la tête des syndicats pour négocier directement avec ses salariés. Bon, il y a un cadre à tout ça, hein, mais il n'empêche, la philosophie, elle est celle-là. Et puis, il y a la question des licenciements, donc que ce soit par le biais de la limitation, enfin, de la barémisation des indemnités de licenciement, mais aussi sur le fait qu'on va pouvoir conclure beaucoup plus facilement qu'avant, donner beaucoup plus, être beaucoup plus souple sur le licenciement économique. On a parlé tout à l'heure du périmètre d'appréciation des difficultés, donc ça veut dire qu'en gros, une entreprise qui sera en difficulté en France, mais dont la maison mère sera en très bonne santé, pourra, sans aucun souci, sans avoir retoqué son plan auprès de l'inspection du travail, licencier sans souci. Donc non, c'est des gros changements sur le licenciement et sur la place des syndicats.
Alors ça fait deux grands thèmes, hein, de changements. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus, mais je vous propose peut-être de nous arrêter d'abord, dans un premier temps, sur cette question du dialogue social. Si les syndicats au niveau national sortent peut-être encore plus divisés qu'ils ne l'étaient, en tout cas relativement affaiblis par rapport à cette méthode Macron, est-ce qu'ils seront aussi affaiblis au niveau de l'entreprise, ou bien est-ce que le dialogue social est renforcé au niveau des entreprises? C'est en tout cas comme ça qu'est vendu, disons, entre guillemets, cette nouvelle loi, Leïla de Commarmont.
C'est vrai que le dialogue social est renforcé au niveau de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a de nombreux sujets. Bon, l'essentiel avait quand même, je pense, été fait par la loi El Khomri, parce que les questions de temps de travail sont des questions fondamentales pour l'organisation de l'entreprise. Mais
voilà, il y avait l'idée qu'un accord d'entreprise pouvait modifier la durée du travail. Donc ça, c'était plus à faire, si j'ose dire.
Voilà. C'est un pari extrêmement risqué. C'est-à-dire que quand on regarde l'étendue des possibilités que va donner la négociation, je ne parle pas dans les petites entreprises, qui est un autre sujet, à mon avis, très important, hein, mais sur l'enjeu structurel et politique, l'étendue des sujets sur lesquels on va pouvoir négocier, c'est y compris sur le type d'informations données pour négocier, y compris sur ce qu'on appelle la base de données économiques et sociales auxquelles ont accès les élus du personnel, y compris sur le rythme des négociations. Enfin, moi je vais appeler ça un joyeux foutoir, joyeux je ne sais pas, foutoir ça peut l'être en tout cas. Et donc sur ce sujet-là, la question est-ce que les élus du personnel, et d'ailleurs les entreprises, auront les moyens de s'emparer du sujet, avec une sous-question qui est les entreprises sous-traitantes, par exemple de grands groupes, jusqu'où les grands groupes mettront-ils la pression sur eux pour qu'ils négocient avec leurs élus du personnel pour leur survie des mesures très difficiles pour les salariés. Donc ça, c'est le premier sujet.
Fois du dialogue social renforcé, de nouvelles vulnérabilités finalement.
Voilà, une vraie interrogation sur ce que ça va donner sur le terrain, et je pense que on le saura sans doute assez vite, sauf que la situation économique s'améliorant quand même, ça peut réduire la pression sur les entreprises.
Oui, parce qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'appliquer toutes ces dispositions, c'est ça? C'est
exactement. La question est, qu'est-ce que les chefs d'entreprise vont pouvoir proposer à leurs élus face à des éléments? L'autre aspect, c'est sur les petites entreprises. Le danger, pour moi, n'est pas tant la négociation avec les élus du personnel, qui existe, hein, parce que lorsqu'on n'est pas formé, lorsqu'on n'a pas un back-office pour nous aider à décrypter, c'est très compliqué. Par exemple, sur l'égalité pro, c'est en réalité très compliqué. C'est là où il n'y a ni élu du personnel, dans les toutes petites boîtes, où l'employeur va pouvoir présenter ce qu'on appelle un projet d'accord. On se demande même si c'est constitutionnel. Et faire un vote. Et puis, le vote, c'est juste, il faut qu'il s'en aille et puis les salariés votent. Bon, on a des vraies interrogations, d'autant qu'il existe des moyens de faire autrement.
Manon Malher, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord.
Déjà, je pense qu'effectivement, le renforcement du dialogue social est un point clé, et notamment le fait de pouvoir négocier des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés sans syndicat. Donc ça ouvre le champ quand même, c'est de l'innovation. C'est une innovation importante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a seulement 4% des entreprises en France de moins de 50 salariés qui ont des syndicats. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune capacité de négociation dans 96% des entreprises.
Et en même temps, on peut aussi voir un affaiblissement du dialogue social parce qu'on peut se passer des syndicats. Plutôt que de promouvoir la syndicalisation, on a l'impression qu'on organise cette absence de syndicats.
Oui, sauf que le fait est là et on ne peut pas imposer des syndicats dans toutes ces petites entreprises. Juste quelque chose, c'est quand même des accords. La négociation, c'est les accords majoritaires, donc à la majorité des syndicats. Donc la négociation, c'est pas le chef d'entreprise qui impose sa décision aux salariés. Il faut négocier des accords. Et c'est là où ça va être compliqué. Il y a quand même des entreprises, je pense, qui craignent sur certains sujets de négocier avec les syndicats.
C'est un dialogue social renforcé, Jean-Christophe Chanu.
Et écoutez, je vais partager le point de vue de Liliane Commarmont. Je considère que c'est un gigantesque pari, au fait. Et au fait, personne ne sait encore actuellement comment ça va se passer. Donc, les ordonnances ont jeté les bases de nouvelles possibilités de dialogue social dans les entreprises. C'est incontestable. Maintenant, est-ce que les forces syndicales dans toutes les entreprises sont capables d'utiliser ces armes? Moi, j'en suis pas totalement persuadé. Comme dit Laïla, c'est vrai, en plus, il y a
une... On pourrait dire la même chose des chefs d'entreprise, d'ailleurs, non?
Les chefs d'entreprise, ils ont peut-être, on peut espérer qu'ils sont un peu plus armés via le MEDEF, CPME maintenant, oui, etc. Voilà. Mais c'est un gigantesque pari. Moi, je suis un petit peu inquiet pour le fait syndical. Parce que c'est notamment pour ça que Laurent Berger n'était pas content de ces ordonnances, parce qu'il a toujours voulu qu'il y ait un développement du fait syndical. Et là, c'est vrai qu'on contourne complètement le fait syndical et on fait tout pour que le fait syndical ne puisse pas s'implanter dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, on fait tout pour que les syndicats ne puissent pas s'implanter, puisqu'on permet de négocier en contournant le fait syndical. Donc, c'est assez inquiétant pour le développement du syndicalisme dans les entreprises de moins de 50 salariés. Mais c'est peut-être en effet le but recherché. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est exactement la même chose aussi pour les grandes entreprises. Tout à l'heure, on a évoqué l'histoire de la cogestion à la française, pour comparer avec la cogestion à l'allemande. Mais mine de rien, le conseil d'entreprise, c'est-à-dire la fusion de l'ensemble des institutions représentatives du personnel, CHSCT, délégué du personnel, comité d'entreprise et délégué syndical. Moi, je me demande ce que ça peut donner. Le délégué syndical, c'était une énorme avancée de mai 68, où la section syndicale d'entreprise a été autorisée. Il y a toujours eu un monopole de la négociation via les syndicats, parce qu'on a toujours considéré dans le droit du travail que la représentation du personnel et la négociation au nom du personnel, c'était pas forcément la même chose. Or là, on veut peut-être tout fusionner. Ça veut dire qu'on va peut-être revenir sur le fait syndical également dans les grandes entreprises, avec peut-être la disparition du délégué syndical.
Mais sur ce sujet, on entend aussi les deux discours, c'est-à-dire on entend à la fois le discours sur un affaiblissement et puis sur le fait que ça permettrait aussi de gérer parfois une forme de pénurie, d'être plus, rationnel dans la gestion de ces différentes instances en les fusionnant. Mathilde Goanec, ça sort affaibli, il sort renforcé ce dialogue social?
Moi, je pense qu'il y a une forme de duperie quand même, parce qu'on aurait pu imaginer, on peut imaginer qu'on négocie au niveau de l'entreprise, très bien, mais dans ce cas-là, on donne des moyens, et c'est là où il y a une forme de tromperie, je pense, même dans la campagne électorale, c'est que dans les propos d'Emmanuel Macron pendant la campagne, on réforme le code du travail et on réforme et on accroît le dialogue social. Là, on ne peut pas croire qu'avec des instances qui seront simplement à minima de ce qui se faisait avant ou alors affaiblies dans un certain nombre d'entreprises de taille moyenne, on ne peut pas croire que les salariés vont se retrouver avec des conditions de négociation devenues par magie un peu incroyables.
Mais ce que nous disait tout à l'heure Manon Malherbe, dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat, c'est plutôt mieux.
Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. Enfin, c'est rare quand même les accords qui sont faits pour améliorer la vie des entreprises, notamment des entreprises de moins de 50 qui sont souvent en difficulté. Donc quand on négocie, c'est souvent pour abaisser les conditions de travail en termes de rémunération, en termes de temps de travail, en termes de mobilité, en termes d'assouplissement, etc. Donc c'est là où il faut des syndicats forts. Les négociations peuvent être très belles, mais il faut que les syndicats soient armés pour ça. Et c'est un peu, à mon avis, l'angle mort de la réforme.
Jean-Christophe Chani.
Oui, sur ce sujet, justement. Manon, tout à l'heure, a évoqué en disant il n'y a que 4% il n'y a que 4% des entreprises de moins de 50 salariés qui ont des syndicats. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer d'autres voies d'autres voies étaient possibles. Alain Supiot, éminent professeur de droit du travail, professeur au Collège de France, on a évoqué quelques-unes. On a oublié complètement la dimension territoriale et par exemple, et la notion de sous-traitant. Dimension territoriale, on aurait pu imaginer un regroupement d'entreprises faisant à peu près la même chose sur un secteur, dans un territoire donné, et on pouvait négocier à ce moment-là une espèce de d'accord ou de convention pour ces entreprises de ce secteur. Quant aux sous-traitants qui dépendent à 70 ou 80% d'un seul donneur d'ordre, on aurait pu imaginer, par exemple, il y a une notion juridique qui s'appelle unité économique et sociale, mais on aurait pu peut-être étendre cette notion et imaginer que le sous-traitant ou les salariés des sous-traitants, en tout cas, pouvaient bénéficier d'un certain nombre de choses du donneur d'ordre. Pardon.
Donc vous vouliez rajouter encore quelques pages supplémentaires au Code du travail ?
Non, je crois pas.
Pas forcément.
On aurait fait autre chose.
Pas forcément. Leïla de Commerman.
Sur l'affaiblissement des syndicats par cette réforme, c'est, je pense, sur les moins de 50, le constat de leur faiblesse. Parce qu'il faut quand même reconnaître que, notamment avec la réforme des 35 heures, il y a eu une possibilité de négocier dans ces entreprises-là par mandatement. Et que les syndicats n'ont pas réussi. Certains ont moins raté que d'autres. La CFDT est plus présente sur ce type d'entreprise, mais les syndicats n'ont pas réussi. Donc, quelque part, on leur fait payer leurs faiblesses. Faut-il tout attendre de la loi pour imposer ? Est-ce que les élus du personnel ne vont pas ressentir à un moment donné le besoin de s'appuyer sur des forces ? Parce qu'on a une vision extrêmement politique du syndicat quand on en parle. Mais le syndicat dans la boîte, la CFDT, FO, la CGT, c'est d'abord un élu et un élu qui essaye d'avoir des éléments pour pouvoir négocier pour les salariés. Et donc les infos, la structuration, elle vient de son organisation. Et pour moi, c'est un grand enjeu pour les syndicats aujourd'hui que de donner ce... Les gens appellent ça service, enfin c'est un service très politique quand même, hein, de donner les clés pour bien négocier, c'est pas un service comme Veolia ou France Télécom. Donc donner des moyens de négocier, peut-être que ça va permettre à un moment donné, s'il y a négociation dans ces entreprises, qu'un besoin se fasse sentir. Mais c'est vrai que ce sera indirect, et c'est vrai qu'on en vient toujours au pari risqué. C'est risqué pour les syndicats.
Manon Malher.
Juste un dernier point sur cette négociation, c'est, enfin, tout dépendra aussi. C'est peut-être une évidence, mais il faut que les entreprises s'approprient la réforme. Enfin, je veux dire, si personne veut négocier, ça marchera pas. C'est les ordonnances donnent les clés. Maintenant, soit elles s'approprient la réforme, soit elles s'approprient pas la réforme. Il y a rien d'imposé non plus.
Mais qu'est-ce que ça serait le signe qu'elles se sont appropriées la réforme ? C'est-à-dire, ça, on pourrait le voir à quoi ? C'est-à-dire avec la multiplication d'accords d'entreprises qui modifieraient un certain nombre de points qui existent, soit au niveau des branches aujourd'hui, soit dans le droit du travail ?
Oui, c'est-à-dire plus de dialogue social au sein d'entreprises, donc ça veut dire négociation d'accords d'entreprise, plus de négociation d'accords d'entreprise, notamment dans les petites entreprises.
Mais est-ce que vous êtes d'accord, pour, comme le suggérait tout à l'heure Mathilde Gohanec, que s'il y avait cette multiplication d'accords d'entreprise, ce ne serait pas pour faire du mieux 10 ans, ce serait plutôt pour revenir, peut-être pour grignoter certains choses qui
c'est
sont...
C'est la leçon des précédents accords, hein. Enfin, c'est ce qu'on voit des accords déjà, on pouvait déjà conclure des accords au niveau d'entreprise.
Voilà, c'est ce que dit Mathilde Gohanec. Manon Malher.
En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit ça offre de la souplesse à l'entreprise. Alors, on peut dire que les droits des salariés sont rabaissés, etc. Mais on peut aussi dire que, je ne sais pas, par exemple, pour une prime, peut-être que c'est plus intéressant d'avoir telle prime. Je ne sais pas, une prime... au lieu d'avoir une prime d'ancienneté, avoir une autre prime ou ne pas avoir de ticket restaurant, mais autre chose. Ça peut se négocier. Maintenant, ça peut se négocier au niveau de l'entreprise. Ça peut aussi être intéressant pour le salarié.
Parce que ce genre de choses n'était pas possible auparavant. C'est-à-dire quand c'était pour donner davantage que ce qui est prévu dans la loi, ça
c'était possible. On pouvait négocier en faveur si on n'était pas en dessous de ce que prévoyait la branche.
Donc cette inversion de la hiérarchie des normes.
Je vois pas ce que dit aussi le patronat, ce que dit le ministère, ce que dit les syndicats. Il faut voir qu'en fait c'est une négociation, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de syndicats, l'élu du personnel, il y a tous les salariés derrière. Unilatéral.
Si j'insiste un peu sur ce point, Manon Malher, je m'adresse à vous quatre. Je rappelle d'ailleurs qu'on est en compagnie de quatre journalistes spécialistes des questions sociales, donc Manon Malher, Leïla de Commerman, Mathilde Gohanec et Jean-Christophe Chanu. Si j'insistais un petit peu sur sur ce point, c'est parce que on voit bien que cette loi peut aussi être considérée comme une loi, si ce n'est de circonstance, en tout cas une loi conjoncturelle liée à un haut niveau de chômage. On imagine qu'avec un chômage beaucoup plus bas, il n'y aurait pas forcément eu besoin de modifier à ce point le code du travail, non, Laïla de Commermont?
Il n'est pas démontré encore que c'est ça qui créera de l'emploi. J'aurais plutôt tendance à dire que la situation de l'emploi va être déterminante sur le contenu des accords qui seront signés dans les entreprises. Vous ne négociez pas de la même façon quand votre marché est en train de dégringoler et quand votre marché, au contraire, est en pleine forme, que vous gagnez que vous apportez du boulot à vos salariés, que vous avez besoin d'embaucher et de garder ceux qui sont sur place.
Ça, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la loi qui va avoir un impact sur le niveau de l'emploi, mais c'est plutôt le niveau de l'emploi qui va avoir un impact sur la façon dont la loi sera appliquée.
Ah, je pense que ce sera déterminant. Et de même que, contrairement à une idée reçue, quand on négocie, il y a beaucoup de conflits. Donc on va peut-être avoir le retour de la grève, comme au moment des 35 heures.
Donc la conflictualité qui est apparue assez basse ces dernières semaines pourrait augmenter à nouveau, mais plutôt au niveau des entreprises. Jean-Christophe Chanu.
Oui, moi je partage totalement ce point de vue. C'est vraiment la situation de l'emploi qui va déterminer l'avenir de ces ordonnances et pas l'inverse, à mon avis. À l'ère Jospin, entre 1998 et 2002, le droit du travail était, entre guillemets, plus rigide que maintenant. Notamment, il n'y avait pas, par exemple, ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Or, il se trouve qu'à cette période, la France avait un taux de croissance qui était supérieur au taux de croissance européen. On a créé 2 millions d'emplois en France. Donc, c'est vraiment le carnet de commandes et la situation économique qui déterminent la situation de l'emploi. C'est pas le droit du travail. Pourquoi on s'intéresse maintenant tant au droit du travail? Ben, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des règles européennes, que la France ne bat plus sa monnaie, qu'on est au sein d'un système européen et il reste beaucoup moins de marge de manœuvre qu'auparavant. Donc il reste quoi? Il reste un peu la fiscalité et il reste un peu le droit du travail.
Madame Allaire. Juste pour dire, effectivement, c'est le carnet de commandes, hein, de toute manière, qui permet l'emploi. Je pense qu'on est dans un environnement aussi hyper compétitif, qu'il y a besoin de plus de sur-mesure qu'avant. Et donc, ces ordonnances offrent un cadre. Après, personne, effectivement, peut dire... si ça va déboucher sur plus d'emplois ou pas. C'est le lien et pas direct comme ça.
Mathilde Gouanec.
C'est même, encore une fois, une des leçons des différentes réformes, parce que tout à l'heure, on se demandait si c'était la bonne réforme. Mais il y en a eu tant et tant des réformes sur le Code du travail qui ont d'ailleurs revu la place de la négociation d'entreprise dans l'architecture. Ça date de Auroux à jusqu'ici. On a réformé les échelons de négociation dans l'entreprise. Donc, c'est même pas une révolution. C'est une forme d'aboutissement de ces différentes réformes. Et ces différentes réformes ont montré que ça a eu peut-être d'autres vertus, mais ça n'a pas eu la vertu de réduire le chômage. Et c'est là, c'est en ça, je suis d'accord sur la référence à Alain Supiot et même à Antoine Lyon-Camp, hein, qui sont des juristes quand même assez importants aujourd'hui sur les questions du droit du travail, qui disent ce sont des occasions manquées. C'est-à-dire que la réforme qui permettrait de gérer les mutations du travail, qui permettrait de protéger mieux et d'accompagner par exemple les salariés des plateformes, etc. Tout ça, ça n'est pas dans cette réforme-là. Donc en fait, on a continué à appliquer des réformes, des recettes assez anciennes, sans voir ce qui arrive, c'est-à-dire une réelle mutation du monde du travail.
Ça aura peut-être d'ailleurs d'autant moins de vertu à faire baisser les chiffres du chômage qu'une partie des nouvelles dispositions vise à favoriser les licenciements. Alors, peut-être que dans un deuxième temps, ça peut permettre aux entreprises ensuite d'embaucher plus facilement, mais dans un premier temps, ça pourrait aussi avoir un impact, mais pas l'impact attendu sur le chômage.
Là, de fait, c'est pour ça qu'on attend tous avec impatience, je pense, les deux autres réformes. C'est-à-dire, là, le gouvernement assume que ce n'est pas une réforme qui va améliorer les taux de chômage, mais plutôt, en tout cas, flexibiliser le marché du travail, donc éventuellement faciliter les licenciements. Le deuxième coup, c'est celui de la contrepartie, c'est-à-dire est-ce que l'État sera suffisamment protecteur pour assurer à chacun la transformation professionnelle, la reconversion et le chômage, l'indemnité suffisante pour passer l'orage. Le problème, c'est qu'on a cassé, entre guillemets, cassé d'abord, et on attend la réparation, le financement de la réparation, qui va piloter, qui va payer, et voilà.
On a mis la flexibilité dans celle-là, la sécurité, ce sera pour un peu plus tard, Laïla de Commermont.
C'est maintenant, comme dirait l'autre. Non, en fait, le dossier est déjà ouvert, effectivement. Il y a un gros enjeu sur l'assurance chômage avec cette ouverture, y compris aux indépendants. Un enjeu financier, un enjeu de philosophie aussi. Et d'ailleurs, quand on parle philosophie, c'est assez intéressant parce que moi, je pense que la réforme du droit du travail, c'est la victoire des économistes sur les juristes, quelque part. C'est-à-dire que ceux qui l'ont prôné, ce tout à l'entreprise, alors bien sûr, il y a Jacques Barthélémy, grand avocat côté entreprise, mais c'est beaucoup, beaucoup des économistes expliquant qu'il n'y avait pas assez de fluidité sur le marché du travail. Alors que chez les juristes, on a une réflexion qui est un peu différente. Donc, en fait, sur cet aspect-là des choses, on assiste quand même à un bouleversement philosophique dont on n'a peut-être pas encore parlé et qui va être rattrapé par le réel. C'est-à-dire qu'on va voir bientôt si oui ou non, quand l'architecture globale des réformes sera faite, avec cet enjeu sur la formation professionnelle et assurance chômage, à quoi va ressembler notre monde du travail de demain. C'est un énorme enjeu, on ne peut pas encore le dire aujourd'hui, je pense.
Donc il ne suffit pas d'attendre seulement les effets de cette loi travail, mais l'ensemble des différentes lois qui vont être menées dans les prochains mois.
C'est la communication aussi du gouvernement, c'est-à-dire on a assoupli le droit du travail un peu plus. Maintenant, on offre des garanties, des nouvelles protections, et puis on, avec la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, on offre des garanties pour être employable.
Cela dit, c'est peut-être la bonne manière de faire, c'est-à-dire les choses douloureuses au début, puis après on donne l'impression, douloureuse.
On ne sait pas la classe sociale non plus, il faut arrêter. On ouvre un champ, on va voir comment ça se passe, mais c'est pas non plus douloureux. À voir, quoi. Bon,
d'accord, je me fais un peu réprimander.
Non, à mon avis, ça sera douloureux,
Il faut attendre, moi je continue à dire qu'il faut attendre.
Mais et sur la structure d'ensemble, en tout cas.
Structure d'ensemble, je reviens à ce que vous disiez là tout à l'heure à propos des licenciements, parce qu'on a parlé du dialogue social. Alors sur les licenciements, c'est pas douloureux, on va voir si c'est pas douloureux. En tout cas, pourquoi ces mesures ont été prises sur les licenciements, ne nous cachons pas, c'est vraiment pour rassurer les investisseurs potentiels en France. Le message qui est envoyé à l'étranger, à Davos, etc., chaque année, on dit que le problème avec la France, c'est la rigidité du marché du travail. On ne peut pas investir en France à cause des lois sur le travail. On ne sait pas combien va coûter un licenciement, etc. Maintenant, on sait tout. Donc maintenant, il n'y a plus un seul argument pour ne pas venir investir en France, puisque maintenant, un employeur qui voudra licencier peut chiffrer son coût budgété, le coût de son licenciement. Résultat, même le gouvernement a sorti un petit logiciel qui permet en deux clics sur son site de savoir combien coûte un licenciement abusif. Abusif, donc un licenciement où il n'y a pas de cause réelle et sérieuse. Donc c'est sur un site du gouvernement. Et donc, en fait, tout est fait maintenant pour rassurer. Alors, si on en vient aux indemnités prud'hommes, ce vieux combat, il fallait limiter les indemnités prud'hommales parce que les prud'hommes, c'est la loterie, parce que les prud'hommes, c'est trop cher dans certains cas et on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Là aussi, il faut rétablir un tout petit peu la vérité quand vous parlez avec des avocats. Côté employeur comme côté salarié, ils vous disent non, faut pas non plus exagérer. C'était pas tant la loterie que ça, les prud'hommes. Grosso modo, vous savez que pour un licenciement abusif avec quelqu'un qui a une dizaine d'années d'ancienneté, c'était 7, 8, 9 mois. Le danger de l'ordonnance est. On n'a pas, nous journalistes, nous sommes les premiers fautifs, on n'a pas vu le problème. C'est qu'on s'est intéressés tous au plafond. Au fait, il fallait s'intéresser au plancher.
Au plancher.
Parce que le plancher passait de 6 mois à 3 mois. Mmh. Et ça, c'est fondamental.
Mathilde Lohanec.
Par ailleurs, réformer pour restaurer la confiance, outre l'aspect un peu magie de la manœuvre, les employeurs eux-mêmes, selon une étude, je ne sais plus si c'est d'Arès ou INSEE, ont mis la peur, la rigidité du code du travail, la peur des prud'hommes, etc., bien loin derrière le carnet de commandes, la capacité d'investissement, c'était INSEE. Donc voilà, je veux dire, il faut aussi écouter les employeurs, et notamment les petits employeurs qui ne se retrouvent pas forcément dans une réforme comme celle-là.
Bon, du coup, je vous rappelle la question qu'on pose ce soir et à laquelle je vais vous demander de répondre de manière assez brève si c'est possible. Loi travail, est-ce que cette fois c'est vraiment la bonne? C'est-à-dire est-ce qu'après on pourra quand même attendre au moins quelques années pour avoir une nouvelle réforme?
Est-ce que c'est un sujet de journalistes sociaux ou est-ce que si on parle politique, je ne pourrais pas vous assurer que c'est vraiment la bonne?
Profitez-en parce que souvent les journalistes politiques sont capables de vous prévoir l'avenir.
Toute alternance apporte son lot de réformes. On l'a bien vu d'ailleurs sur le droit du travail. Donc je ne suis pas certaine. Mais pour le quinquennat, en tout cas, on peut penser que oui.
Manon Malherbe et Jean-Christophe Chenu. Non, pas pour que vous répondiez exactement en même temps, parce que sinon on ne va pas vous comprendre, Jean-Christophe Chenu.
Écoutez, moi j'espère que ce n'est pas la dernière, parce qu'il y a une loi que j'attends, de droit du travail que j'attends avec une immense impatience. C'est celle qui va régler le problème de ce que moi j'appelle les salariés autonomes, c'est-à-dire tout le problème des plateformes, parce que là j'attends désespérément, ça commence à bouger en Angleterre, vous vous rendez compte, en Angleterre, je voudrais bien que ça bouge un petit peu en France et qu'on commence à s'intéresser à ces vrais faux salariés de Uber ou de Deliveroo et qu'on fixe un statut pour eux.
Bon bah écoutez, désolé pour Manon Malherbe et Mathilde Goanec, mais on n'a pas le temps d'entendre vos réponses sur cette question, mais en tout cas ça nous donne l'occasion d'imaginer qu'il y aura d'autres émissions qui seront consacrées justement au droit du travail. Ce sera l'occasion justement de vous réinviter. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jean-Christophe Chenu, Mathilde Goanec, Manon Malherbe et Leïla de Commarmont. Émission que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson. La dispute, Arnaud Laporte. C'est bientôt à vous.
On va rester très politique ce soir dans l'émission Théâtre avec Thomas Ostermeyer, avec Thomas Bernard et avec Vincent Macaigne. Et dans du grain à moudre demain, Hervé Gardette.
Ah bien, vous savez que l'autorité bancaire européenne va passer de Londres à Paris. Mais on va s'intéresser à la régulation bancaire. Où est-ce qu'on en est 10 ans après la crise financière? Ce sera donc notre question demain, 18h20.
Merci Hervé.